Vous écoutez France Culture.
Bonjour, toujours en direct de la cour du rectorat à Montpellier. Nous remercions d'ailleurs le rectorat de nous y accueillir tous les jours, d'ailleurs du matin jusqu'au soir ou presque, puisque ce soir nous aurons les rencontres de Pétrarque et qu'entre-temps, eh bien, il y aura le grain à moudre, il y aura le journal d'Antoine Mercier qui se dérouleront d'ici. Donc, et nous parlons du peuple, comme toute cette semaine à Montpellier. Quatrième temps donc de notre semaine sur le peuple et son histoire, en direct donc de Montpellier à l'occasion du Festival Radio France Montpellier-Languedoc-Roussillon et des rencontres de Pétrarque qui ont cette année pour thème justement le peuple. Lundi, dans une émission que, comme les autres d'ailleurs, vous pouvez réécouter sur le site de franceculture.com pendant 500 jours et télécharger pendant une semaine, nous avons abordé les rivages de la Grèce antique et de l'Empire romain, du Populus et du Demos. Mardi, nous nous sommes interrogés sur le peuple au Moyen-Âge, hier sur les révoltes populaires à l'époque moderne, demain nous vous parlerons de la mystique du peuple par les écrivains et les historiens au XIXe siècle. Et aujourd'hui, me direz-vous, eh bien, nous allons passer une heure en compagnie des révolutionnaires de la Révolution française, quand le peuple et sa souveraineté ont été au cœur de notre politique, quand le peuple s'est même parfois incarné. Il s'incarnait alors peut-être en Hercule. Comme chaque jour, je serai avec Perrine Kervran de la Fabrique de l'Histoire et Isabelle Furst qui nous lit chaque matin des textes qui illustrent le thème du jour. Et nous aurons le plaisir de recevoir Michel Vauvel. Je l'en remercie d'être ici. Il est historien, il a dirigé très longtemps l'Institut d'Histoire de la Révolution française. Il a ouvert tellement de chantiers pour les historiens français que c'en est un homme très important pour nous, des chantiers sur la mort, sur l'histoire des mentalités et évidemment sur un nouveau regard porté sur cette Révolution française. Nous aurons également Christine Perrard, elle est professeure à l'université d'Aix, et je la remercie d'être venue d'Aix justement à Montpellier, et sa thèse portée sur les Jacobins de l'Ouest, et elle a fait sa thèse avec Michel Vauvel. Et nous aurons également avec nous, il est de Montpellier, Bernard Péchaud, il est maître de conférence à l'université de Montpellier en histoire moderne. Bonjour, bonjour et bonjour Isabelle Furst. Vous commencez tout de suite cette émission, c'est une première salve avec un premier texte tiré des annales patriotiques de Cara autour justement de la différence que l'on peut faire au moment du début de cette Révolution française en 1789 entre peuple et populace.
Sous le règne du despotisme, tout est avili, tout est dénaturé jusqu'à la langue même. Et les courtisans surtout n'ont rien de plus à cœur que de chercher à voiler par des termes grossiers et dédaigneux la majesté du peuple, en désignant ce même peuple sous le nom de populace et souvent sous celui de canaille. Mais sous le règne de la liberté, il faut changer de ton et d'expression comme de principe et de manière. C'est donc avec une extrême surprise que nous voyons non pas des gens de cour, mais des journalistes se servir encore fréquemment aujourd'hui du mot de populace en parlant du gros de la nation et de la classe la plus précieuse de l'Empire. Qu'ils apprennent que ce mot est un barbarisme insolent dans la langue d'un peuple libre et qu'il n'est plus permis de s'en servir sous peine d'être chassé de la société comme on est chassé de la maison d'un homme qu'on va insulter chez lui. Dans quelles circonstances d'ailleurs peut-on appliquer ce mot ? Est-ce dans un marché, lorsque le peuple des campagnes vient en foule nous apporter des subsistances ? Est-ce dans une fête de village, lorsque ce bon peuple se délasse de ses travaux pénibles et journaliers ? Est-ce pour les ouvriers des villes, lorsqu'ils s'assemblent sur les promenades publiques ou dans les spectacles ou dans les guinguettes, pour y jouir une fois par semaine de quelques divertissements bien maigres en comparaison de ceux dont les riches jouissent tous les jours? Est-ce parce que ce peuple est couvert de haillons et qu'il n'a ni croix, ni cordon, ni carrosse? Car le peuple à carrosse et à cordon rouge ou bleu n'est pas de la populace pour les journalistes dont nous parlons. C'est Monseigneur le Prince, Monseigneur le Duc, enfin, ce sont là des gens comme il faut pour ces journalistes. Est-ce le peuple qui s'assemble pour prendre la Bastille, pour aller à Versailles sauver la France, pour teindre ses haillons de son sang en haine du despotisme et en faveur de la liberté ? Ah oui, C'est celui-là sûrement que ces journalistes entendent désigner nominativement par le mot « populace », misérable. Il vous sied bien d'insulter ainsi un peuple de héros qui sacrifiait sa vie pour vous, tandis que vous étiez tout tremblant, allez. Et sachez désormais respecter le peuple qui a su conquérir sa liberté en 3 jours de temps après un esclavage et une oppression inouïe depuis 500 années. J'interpelle donc tous nos lecteurs de nous dénoncer le journaliste qui osera profaner la majesté suprême du peuple français en le désignant quelque part que ce soit, ou dans quelque circonstance que ce puisse être, sous le nom de populace.
Bonjour Michel Vauvel et merci d'être avec nous. Ce texte qui ouvre cette discussion sur le peuple de la Révolution française pose déjà toutes les bases de notre discussion et de notre débat, puisqu'on y explique ce qu'est ce peuple et comment il faut le distinguer de la populace.
Et pose déjà plusieurs bases, c'est-à-dire, et plusieurs questions en même temps. Est-ce que la Révolution représente dans cette aventure transséculaire du peuple une rupture que oui. l'on peut dater. Oui, nous dit Michelet.
Oui.
Oui, nous dit Michelet. Et Michelet qui nous présente les députés des États généraux qui s'affrontent et qui nous fait partir de la déclaration de Mirabeau. Comment les appeler ? Alors même qu'ils vont s'intituler Assemblée nationale. Bien, Mirabeau propose représentant du peuple. Représentant du peuple, mais c'est déjà une affirmation.
C'est déjà quelque chose d'important.
Mais bien sûr.
On parlait des peuples du roi, par exemple. Alors, les peuples qui étaient sous la coupe du roi auparavant. Et là, d'un seul coup, on parle du peuple au singulier.
Par référence à cet héritage donc, qui serait celui des cahiers de doléances, si vous voulez. Pour Michelet, déjà, les cahiers de doléances sont un acte collectif de naissance du peuple parce qu'il est invité à déposer ses plaintes, ses réclamations. Mais la mise en forme, c'est celle-ci. Et les légistes du tiers ne s'y trompent pas. C'est légistes qui s'appelle Targé qui vont dire, mais attention, comment on va traduire dans notre langage plebs ou populus ?
La populace, justement, ou le peuple civique, d'une certaine façon.
Donc, ils ont leur référence dans leur latin.
Dans l'Antiquité.
Et ils posent une question. Michelet dit, pour la cour et pour le roi, c'était plutôt plebs, hein, plutôt populace. Mais donc, une entrée en scène, si l'on veut, du peuple par référence à ces peuples qui s'adressaient dans les cahiers de doléances à un roi sur la base d'un rapport encore d'enfant à père et avec tout le respect qu'ils lui garderont pendant tout un temps. Donc, c'est une première naissance du peuple, si je puis dire, dans ce qui s'esquisse comme la révolution par en haut, celle qui se fait à Versailles. Et puis, il y a l'autre naissance, acte de naissance, qui est le baptême du sang, mais c'est vrai.
C'est 3 jours pendant lesquels on a versé son sang pour pouvoir justement créer cette nouvelle nation.
Oui. Et c'est là que nous assistons donc à l'émergence de ce peuple, ce qui va devenir cet acteur privilégié et l'acteur privilégié de ce qu'on va appeler le mouvement populaire.
Perrine Carbon.
Oui, et Michel Vauvel, il s'agit à ce moment-là d'un peuple qui n'est plus ce qu'on a pu avoir jusque-là dans les textes, une foule un peu versatile, mais d'un peuple construit, uni, doté d'une volonté et qui sait ce qu'il veut.
Quand vous avez évoqué précédemment dans vos autres séances, les révoltes populaires, Alors, c'est, j'allais dire, la grande saga que nous évoque Jean-Nicolas
dans sa rébellion française.
Dans ses rébellions françaises. Mais à la fin, eh bien, à la fin, on pend le tambour de la rébellion et ça rentre dans l'ordre. Et maintenant, voilà que le peuple a vaincu et a imposé sa présence et sa présence positive dans le mouvement, dans ce qui va devenir le mouvement révolutionnaire.
Et alors, l'autre jour, lorsque nous faisions la première conférence, la leçon inaugurale des rencontres de Pétrarque avec Pierre Rosanvallon lui disait, moi, je me pose une question, c'est que tout le monde fait, on a réussi à incarner, à donner des figures à tout un tas, à l'égalité, à la fraternité, à tout un tas de valeurs révolutionnaires, et on a eu beaucoup de mal, on trouve assez peu de représentations, sinon sous la forme de Hercule, de ce peuple qui est pourtant valorisé à tous les moments du début et de la continuation de cette révolution française, Michel Vauvel.
C'est ce qu'il affirme est à mon sens à la fois vrai et faux. Le peuple, c'est vrai, il faut le chercher. Mais le chercher dans les représentations...
Il a écrit un texte qui s'appelle « Le peuple introuvable », c'est pour ça.
Même figuré. Par exemple, dans ces premières images qui vont devenir les scènes historiques de la Révolution française, vous voyez apparaître au 13 juillet Paris gardé par le peuple. Ah, Paris gardé par le peuple, bon, ce sont ces premiers éléments de ce qui va devenir la garde bourgeoise puis la garde nationale. Alors, c'est encore très flou. Ce peuple, c'est quoi? C'est la bonne bourgeoisie parisienne, mais c'est le peuple. Bon. De même, c'est vrai que l'image du peuple personnifié. Il n'y aura pas de John Bull à la française, mais c'est Hercule, et c'est Hercule, bien sûr, ce n'est pas dans les images figurées celle qui prédomine le plus, parce que ce panthéon révolutionnaire, vous le savez bien, il est féminin. Ça, il faut, et ça, c'est un point positif à cela près, que c'est Hercule qui représente, qui incarne le peuple, et pas n'importe quand, à partir de 92 et 93. Et il y a une très belle image qu'il faudrait montrer, c'est le peuple mangeur de rois. C'est une caricature où le peuple est un ogre et qui manipule les despotes comme des marionnettes. Et ce peuple mangeur de rois, il va inspirer toute la statuaire davidienne de la représentation du peuple.
Christine Perrard, bonjour. Vous avez travaillé donc pour votre thèse sur les Jacobins de l'Ouest de la France. On y viendra avec vous. Mais est-ce qu'on peut tout de suite se dire qui fait partie du peuple, puisque le peuple, à ce moment-là, est élevé en héros de la Révolution, en personnage emblématique, en souverain de la nouvelle nation en train de se créer. Qui fait partie de ce peuple à ce moment-là, au début de la Révolution française? On peut tout de suite savoir ce que représente ce peuple, disons, de façon tangible.
C'est une question évidemment difficile, mais le texte du journaliste patriote Cara nous montre, après la rupture politique et sociale de 1789, à la fin de 1789, le journaliste Cara pose la question de la régénération révolutionnaire. La régénération, ce n'est pas simplement un changement d'ordre politique avec la fin de la monarchie absolue. Ce n'est pas simplement la fin de l'Ancien Régime avec l'abolition des droits féodaux proclamés au moins en théorie le 4 août 1789. Le journaliste invite à aller plus loin et à changer le discours même qui était jusqu'à présent tenu. Donc c'est une véritable régénération à laquelle il invite tous ses confrères journalistes dans ce très beau texte. Alors le peuple, évidemment, il aspire à l'unité, du moins au niveau théorique, c'est-à-dire à se servir de ce qui a fait la force de la Révolution, c'est la force du tiers-État uni. Ensuite, la question, évidemment, de la diversité des classes sociales va bien sûr jouer dans la Révolution, dès le début de la Révolution, et par conséquent, il y aura plusieurs peuples.
Oui, et on comprend qu'il y a des gens qui, naturellement, dès le début, ne font pas partie du peuple. En particulier, tous ceux des anciens ordres qui ne veulent pas accepter la révolution, ils vont très rapidement devenir des ennemis du peuple, d'ailleurs, Christine Perrin.
Oui, bien sûr, mais la révolution pose une question très importante qui a été abordée lors d'un récent colloque à Aix, c'est la question des minorités politiques, puisque la démocratie qui se construit pose la question fondamentale que toute charge publique doit résulter d'une élection, il y a nécessairement bataille électorale, campagne électorale et victoire d'une majorité. Donc que faire de la minorité? Et tous les acteurs de la révolution, quel que soit leur bord politique, se posent la question. Mais que représente ma minorité ?
Bernard Péchaud, sur ce point, puisque vous avez travaillé, vous, sur certains qui pourraient être considérés comme les ennemis du peuple, sur la chouannerie en Anjou en particulier, pour votre travail donc, universitaire. Alors, justement, il y a ceux qui sont dedans et il y a ceux qui sont dehors. Même si on veut au départ que ce peuple soit le plus uni possible, il y aura toujours des ennemis du peuple. Soit ceux qui vont fuir le pays pour pouvoir combattre la révolution, soit ceux qui, à l'intérieur même des frontières, ne vont pas accepter le nouvel ordre révolutionnaire, Bernard Péchaud ?
Oui, je crois que les historiens ont pris conscience depuis déjà pas mal de temps, hein, notamment grâce aux travaux du professeur Vauvel, hein, qu'effectivement, il y a un peuple révolutionnaire, c'est-à-dire qui est un peuple en processus de révolution. Par exemple, les paysans du Nord, hein, qu'a si bien illustré le grand Georges Lefebvre dans sa thèse, les ouvriers, les artisans, les petits boutiquiers des faubourgs parisiens qui vont former la catégorie des sans-culottes. Ouais, mais qu'il y a aussi un peuple, si je puis dire, révolutionné, hein, c'est-à-dire qui prend le choc des différentes transformations de la Révolution française, et qui soit se réfugie dans une sorte d'abstention, comme par exemple beaucoup de Français sous l'occupation, qui essaient de courber la tête, soit qui vont effectivement prendre des positions que les historiens qualifient maintenant d'anti-révolutionnaires, pour ne pas faire la confusion avec la contre-révolution, puisque la contre-révolution, c'est quand même du militantisme royaliste. Donc, dans un très célèbre colloque de Rennes, dont le professeur Vauvel se souvient, il a été proposé de faire la distinction entre la contre-révolution idéologique, les mouvements essentiellement nobiliaires, hein, et puis l'anti-révolution. Et donc, beaucoup d'historiens, depuis les années 60, hein, se sont aperçus qu'effectivement, il y avait un peuple qui était contre la révolution. Ce que j'appelle le peuple révolutionné, qui réagit pour des raisons fort complexes, hein, au processus révolutionnaire négativement.
Périne Kervan.
Mais alors, est-ce qu'on peut dire, Bernard Péchaud, qu'il y a, puisque ces contre-révolutionnaires, notamment les chouans, sont réprimés par les troupes républicaines, qui sont aussi une incarnation du peuple, alors est-ce qu'il y a aussi, on peut dire, dans ce moment révolutionnaire, une façon du peuple qui s'oppose au peuple, c'est-à-dire le peuple qui combat ce même peuple ?
Oui, tout à fait. Oui. Si on étudie bien la répression républicaine dans l'Ouest, effectivement, on ne peut pas ne pas nier qu'il s'agit de deux peuples qui s'affrontent. Dans sa grande thèse sur les Vendéens, Claude Petitfrère a analysé les 5500 demandes de subventions que les soldats vendéens ont demandées au roi à la Restauration. Il les a étudiées sociologiquement. Et puis, parallèlement, il a étudié les quelques 2000 soldats républicains de l'Anjou. Il a montré que là, il y avait deux peuples qui, sociologiquement, étaient différents et qui, malheureusement, se sont effectivement opposés.
Michel Vauvel, sur ce point.
Je voudrais peut-être, avec quelques paradoxes, dire à la fois que j'ai reçu et assimilé, comme les autres, cette distinction qui a été faite entre révolution et anti-révolution, entre cette révolution vécue et cette révolution subie. Je crois qu'il ne faut pas pousser cette voie trop loin sous peine de tomber dans le même précipice que les contemporains dans la mesure où ses contemporains ont été amenés très vite à dire le peuple, oui, mais il y a,
distinguer.
Bons, et puis il y a les autres. Et là, à ce moment-là, on en arrive à douter qu'il y ait eu un vrai peuple en révolution autre que minoritaire, et on écrit à ce moment-là, comme Jacques Solé, le folklore a vaincu la révolution. Mais c'est quand même la révolution qui a gagné. Alors, je pense que
Vous voulez dire qu'il ne faut pas trop découper les catégories, catégories du peuple.
Je pense qu'il faut les envisager dans leur évolution même au sein du processus révolutionnaire. C'est-à-dire partir de l'unanimisme des lendemains du 14 juillet. Et cet unanimisme, j'aime toujours l'illustrer par des images, les assiettes. Les assiettes qui nous disent le temps passé, le temps présent, tous unis, tous frères, il n'est plus de Bastille, il n'est qu'une famille. Alors voilà, ça c'est l'unanimité telle qu'elle va s'exprimer de façon grandiose dans la fête de la Fédération.
Jusqu'en 1790.
En juillet 90. Et cette illusion de l'unanimité, nous en savons d'entrée et dès maintenant les limites qui font que cette définition va être à la fois éclatée et restrictive et extensive. Je m'explique de ces restrictives parce que le système de censitaire établi par la Constituante va délimiter les frontières du peuple qui a le droit du peuple, enfin de ses citoyens
qui ont le droit de s'exprimer.
Ah ben, pour reprendre la belle formule de Sieyès, qui était un des plus grands humoristes de l'époque, Nuque Fillon, qui a dit tous les Français sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres. Alors, il y a des Français plus égaux que les autres, et là, donc, il y aurait les limites officielles du peuple qui est introduit à la Sainte Table et de l'autre. Donc, restriction, mais aussi ce progrès de la dynamique révolutionnaire qui, sans aller jusqu'à s'ouvrir jusqu'aux femmes, va s'ouvrir après les protestants, aux juifs, finalement un temps aux noirs. Donc, extension, mais en même temps, exclusion. Exclusion, c'est celle des suspects, c'est celle des réfractaires, c'est celle... Et à la pointe ultime de la mobilisation révolutionnaire, c'est celle de tous ceux qui n'ont pas fait acte d'adhésion formelle à la révolution.
C'est ce que dit Robespierre quand le 5 niveaux en deux, il dit le gouvernement révolutionnaire doit aux bons citoyens toute protection nationale, il ne doit aux ennemis du peuple que la mort, par exemple. Donc, justement, il y a une distinction très nette, effectivement, de ce que doit être le peuple.
Qui va incarner le peuple, donc, dans ceux qui sont engagés dans la sans-culotterie, dans le mouvement populaire, en tout cas aux côtés de la révolution et du gouvernement révolutionnaire.
Christine Perard, sur ce que vient de dire Michel Vauvel par rapport à vos propres recherches, donc je rappelle, sur les Jacobins de l'Ouest et justement sur la position de ces itinéraires particuliers dans l'arrivée de la Révolution dans ces terres de l'Ouest et la position de ceux qui soutiennent en tant que Jacobins cette Révolution et ces évolutions.
Oui, les formes d'adhésion au nouveau régime évoluent d'abord avec le temps, selon les généalogies particulières, selon aussi les rencontres qui les favorisent. Et il y a bien sûr, pour favoriser ces actions et ces prises de conscience à la fois individuelles et collectives, il y a bien sûr le rôle des mouvements populaires, mais il y a aussi, évidemment, les rencontres dans les clubs, dans les sociétés populaires, où le citoyen... Les citoyennes font l'apprentissage de la démocratie, de la politique, ce qui est évidemment essentiel pour caractériser ce peuple debout, qui est le peuple de la Révolution.
Alors, deuxième texte qui nous est lu aujourd'hui par Isabelle Fürst, donc c'est un plan d'insurrection du peuple pour obtenir du pain et reconquérir des droits, répandu avec profusion dans Paris et présenté à la Convention nationale à la séance du 1er Prairial en 3. Pour ceux qui ne sont pas habitués au calendrier révolutionnaire, le 1er Prairial en 3, on se situe à peu près à quel moment ?
Printemps 95.
Printemps 1795, Isabelle Fürst.
Le peuple, considérant que le gouvernement le fait mourir inhumainement de faim,
que les promesses qu'il ne cesse de répéter sont trompeuses et mensongères. Considérant que chaque citoyen se trouve réduit à envier le sort infortuné de ceux que la famine entasse journellement dans les tombeaux, considérant que le peuple se rend coupable envers lui-même, envers la génération future s'il ne se hâte d'assurer sa subsistance et de ressaisir ses droits, considérant que le gouvernement est usurpateur, injuste et tyrannique quand il fait arrêter arbitrairement, transférer de cachot en cachot, de commune en commune, et massacrer dans les prisons ceux qui ont assez de courage et de vertu pour réclamer du pain et les droits communs, considérant qu'un gouvernement usurpateur et tyrannique ne fonde ses espérances criminelles et sa force que sur la faiblesse, l'ignorance et la misère du peuple, considérant qu'un gouvernement aussi atroce ne peut subsister qu'autant qu'on a la faiblesse de le craindre et de lui obéir, considérant que la cavalerie que le gouvernement a tirée de nos armées pour les affaiblir n'a pas voulu prêter serment de fidélité à la tyrannie, mais au peuple qu'elle a juré de défendre, considérant que l'insurrection est pour tout un peuple et pour chaque portion d'un peuple opprimé le plus sacré des droits, le plus indispensable des devoirs, un besoin de première nécessité. Le peuple arrête ce qui suit. Article 1er. Aujourd'hui, sans plus tarder, les citoyens et les citoyennes de Paris se porteront en masse à la Convention nationale pour lui demander 1. Du pain. 2. L'abolition du gouvernement révolutionnaire dont chaque faction abuse tour à tour pour ruiner, pour affamer et pour asservir le peuple. 3. Pour demander à la Convention nationale la proclamation et l'établissement sur le champ de la Constitution démocratique de 1793. 4. La destitution du gouvernement actuel, son remplacement instantané par d'autres membres pris dans le sein de la Convention nationale, et l'arrestation de chacun des membres qui composent les comités actuels de gouvernement comme coupables du crime de lèse-nation et de tyrannie envers le peuple. Article 9. Le mot de ralliement du peuple est « du pain et la Constitution démocratique de 1793 ».
Michel Vauvel.
Ce beau texte, pour être compris, je l'appellerai le cri du peuple. Mais c'est le cri du peuple au moment où on va le renfermer dans ses tanières. Je durcis les angles, mais ce cri du peuple...
On est après Thermidor. On est après la terreur, on est après Thermidor.
Et après Thermidor, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le chant des contre-révolutionnaires, c'est le réveil du peuple. Ils ont joué le réveil du peuple.
C'est-à-dire, ils ont tourné la formule pour pouvoir justement se valoriser.
Écoutez-les, peuple, ne sois plus idolâtre, ni trop bon, mais sois toujours franc. L'homme noir et l'homme mulâtre, on te fait croire qu'il est blanc. Alors, voilà le... peuple imbécile, peuple bête, vous vous foutez du souverain. Voilà la chanson de la contre-révolution et par rapport à laquelle s'exprime cette voix de qui se retrouve dans certains couplets, mais presque sous le manteau, mourant de faim, tout nu. C'est ce peuple qui se fait entendre et qui se fera entendre aussi dans les manifestes des égouts.
Bernard Péchaud, quand vous avez travaillé justement sur cette Vendée, vous avez passé un certain temps à montrer la chouannerie donc, en Anjou, à montrer combien cette chouannerie en Anjou n'était pas la même au début du processus de révolte populaire contre la Révolution française, puis ensuite à la fin jusqu'en 1799. C'est important justement quand on parle du peuple, quelle que soit la façon dont on en parle, et des ennemis du peuple et des anti-révolutionnaires et des contre-révolutionnaires que de rétablir cette chronologie avec ce bouleversement extrêmement rapide qu'a été la Révolution, ces changements de cap, etc. Et donc la position de chacun évolue au fur et à mesure que les événements politiques évoluent eux-mêmes, Bernard Péchaud.
Oui, alors au-delà de la chronologie très complexe des événements eux-mêmes, qui sont évidemment très, 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 très difficiles à suivre dans le détail des opérations, etc., il y a effectivement à tenir compte d'un contexte qui effectivement est évolutif. Et M. Vauvel, tout à l'heure, a bien mis en rapport le texte qui a été lu avec le contexte de l'époque. Donc, effectivement, il ne peut pas considérer que les mouvements qui s'opposent à la Révolution dans l'Ouest, et notamment en Anjou, que je connais un peu moins mal, sont les mêmes en 1793 et en 1798-1799. Incontestablement, à la fin de la Révolution, le mouvement populaire anti-révolutionnaire, si je puis m'exprimer encore ainsi, a été récupéré par la noblesse très organisée, qui est revenue des migrations, et donc il y a véritablement une récupération idéologique du mouvement, pour des fins qui dépassent en grande partie les objectifs initiaux du peuple.
Christine Perrin, vous qui avez travaillé justement sur cette même région de l'ouest de la France, mais du côté des Jacobins, ces évolutions, c'est extrêmement important que de les rétablir et de ne pas prendre, disons, non pas la Révolution comme un bloc, mais le peuple de la Révolution comme un bloc, Christine Perrin.
C'est-à-dire, ce qui est important, c'est effectivement quand même le contexte politique. Là, dans ce texte que l'on a lu, ce que Michel Vauvel a résumé comme étant le cri du peuple, vous avez ajouté, vous, Emmanuel Laurentin, c'est l'après Thermidor, donc c'est la fin de la Terreur. Non.
Non, j'ai dit, c'est la fin de la Terreur, c'est après la Terreur et après Thermidor.
Voilà, c'est pas après la Terreur. C'est parce que les mécanismes du gouvernement révolutionnaire qu'il conteste, c'est ceux qui appellent à l'indignation et à l'insurrection. Ces mécanismes du gouvernement révolutionnaire, provisoires jusqu'à la paix, tels qu'ils avaient été proclamés, perdurent à ce moment-là, au printemps 1795. Sauf que les suspects ne sont plus les mêmes, et ceux qui sont en prison, c'est précisément les Jacobins. Donc, il y a quelque chose d'important à dire, comme Michel Vauvel l'a rappelé, une des grandes lois de la Terreur, c'est bien évidemment l'abolition de l'esclavage, on est en plein dans ce qu'on appelle la Terreur. Deuxièmement, très important aussi, surtout dans le Midi méditerranéen et en Provence en particulier, sinon dans l'Ouest, c'est le début de la Terreur blanche. Donc on ne peut pas ignorer cette violence qui s'exerce et qui s'exerce dans tous les camps.
Alors, justement, Michel Vauvel, il faut donc rétablir cette chronologie, mais aussi il faut commencer à distinguer à l'intérieur de ce peuple. Par exemple, on a parlé à un moment d'un quatrième peuple. Vous pouvez nous dire ce que c'est que ce quatrième peuple, justement ?
Le quatrième État.
Le quatrième État ?
Le quatrième État, ça avait été invoqué par quelques-uns. Dès les cahiers de doléances et dès les débuts de la Révolution. Mais ce quatrième État où on retrouverait plebs ou populace, mais au sens positif, bien, ce quatrième État, on le placera, qu'on pardonne la simplification, aux marges ou au flanc de ce qui est le cœur du peuple mobilisé de l'an 2, c'est-à-dire la sans-culotterie. La sans-culotterie, c'est-à-dire ce monde urbain, mais aussi rural, des petits producteurs indépendants et qui correspondent au statut de la société de l'époque. Et alors, le quatrième État, c'est les plus pauvres, les plus démunis, ce que Marat a désigné dès le début en disant ce peuple, ce petit peuple si méprisé et si peu méprisable. Et il n'est pas le seul, puisque le relais sera pris par Jacques Roux, par les enragés, par tout un courant, et tout un courant qui coexiste et qui représente un des aspects de la révolution populaire. Et donc, le quatrième État, On le verra invoqué plus tard par les théoriciens de la Révolution, les théoriciens du socialisme du 19e siècle. Je le retrouve chez Kropotkin, Kautsky, Marx aussi, mais il sera mis en valeur progressivement aux côtés de cette aile centrale, de ce centre militant de la Révolution qu'est la sans-culotterie.
Perrine Cambran.
Oui, justement, Michel Vauvel, vous évoquez la sans-culotterie. Dans l'imaginaire collectif, la sans-culotterie, c'est le peuple.
Mais bien
sûr. Dans l'imaginaire collectif aujourd'hui.
Et mais pourtant, bien sûr, le catéchisme républicain écrit « Qu'est-ce qu'une révolution ? C'est l'insurrection du peuple contre ses tyrans. » C'est un passage violent d'un état d'esclavage à un état de liberté. Et ça, c'est donc la proclamation qui va s'exprimer autour de l'idée de unité, indivisibilité. Mais en même temps, ça c'est très important, parce que c'est ce qui nous permet d'associer cette lecture du peuple au cœur de la révolution de l'an 2 à ce qui va... vont être des éléments d'ancrage et de diffusion de l'image du peuple. J'entends l'idée de nation l'idée de patriotisme. Le peuple incarne donc la révolution.
Alors, ce sans-culotte, c'est lui qui, d'une certaine façon, pour vous, Michel Vauvel ou Christine Perrin, c'est lui qui représente le cœur de ce peuple révolutionnaire, c'est quoi ? C'est le centre. Quand si on voulait non pas le représenter en Hercule, on le représenterait justement en sans-culotte. Ou est-ce qu'on fait une erreur, une sorte de partie pour le tout en faisant cela, Michel Vauvel ?
Il ne s'agit pas d'identifier, de réifier la révolution dans l'image qui deviendrait figée du sans-culotte, tel que nous a appris à le connaître Albert Soboul et tous ceux qui ont suivi son exemple. Le sans-culotte a incarné un moment des alliances de classe qui ont fait le succès de la Révolution française, c'est-à-dire pourquoi Paris n'a pas été Naples, pourquoi la Révolution n'a pas été vaincue, c'est parce qu'il y a eu ce soutien populaire au gouvernement populaire, cette alliance, comme on disait dans ma jeunesse, de la bourgeoisie montagnarde, et appuyée un temps sur le mouvement populaire jusqu'à ce que cette révolution se glace quelque part au printemps 94.
En précisant que cette sans-culotterie s'appuie aussi sur les shops, sur la boutique, que ça n'est pas simplement justement une populace sans travail.
Non, c'est les petits producteurs indépendants.
Perrine Cambran.
Alors, Christine Perrard, dans vos travaux, vous évoquez à un moment une scène assez cocasse de femmes dans ces clubs républicains qui, pour être sûres qu'on leur laisse la parole, jettent des noix sur les intervenants. Et donc, ça m'a
on
donné
espère
envie...
que ça ne va pas arriver aujourd'hui dans
ça
la
pourrait.
Cour du rectorat.
Et donc, j'avais envie de vous poser cette question. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans l'historiographie, on revient sur la question de la place de la femme dans la Révolution française. Dans cette question, justement, du quatrième état et de la sans-culotterie, qu'est-ce qu'on peut identifier comme étant le rôle ou la place de la femme à ce moment-là?
Oui, les travaux sur l'histoire des femmes pendant la Révolution sont très importants. Et ce qui est le plus notable, c'est pas simplement le rôle des femmes dans la contre-révolution, mais le rôle des femmes aussi actives dans la Révolution, avec des représentantes célèbres comme Olympe de Gouges, bien sûr.
Proportionnellement, si on fait une proportion, c'est combien par rapport aux proportions d'hommes? On ne sait pas à peu près de gens qui s'engagent, de femmes qui s'engagent dans la Révolution, dans des clubs ou dans des endroits comme cela.
Alors, il y a eu des clubs féminins, mais qui ont été supprimés. Mais il y a eu aussi des clubs qui étaient non seulement interclassistes, ce qui est la caractéristique même des clubs de la Révolution, mais des clubs où les femmes et les hommes se réunissaient et discutaient politique. Alors, l'épisode des Noix, c'est dans un club composé majoritairement de paysans, qu'on n'a pas évoqué, et où on se rend au club comme on se rend à la veillée. Et donc, par conséquent, on peut s'occuper de ces noix aussi, pendant, avec les enfants, qui peuvent perturber les discussions politiques.
Bernard Péchaud, dans votre secteur, c'est-à-dire du côté de l'Anjou, la place des femmes, et de quel côté ? Du côté des anti-révolutionnaires, du côté des contre-révolutionnaires, du côté des révolutionnaires, où en fait on n'en trouve pas trop la trace dans les sources qui sont les vôtres, Bernard Péchon.
En ce qui concerne la chouannerie, qu'il ne faut pas confondre avec la Vendée, hein,
oui.
Il y a très très peu de traces de l'activité féminine. Contrairement à l'armée catholique et royale, très célèbre pour ses quelques femmes.
Donc très peu de traces.
Je n'en ai trouvé pratiquement aucune.
Alors, on a un texte qui nous a été fourni par vous, justement, Christine Perrard, je crois, c'est ce texte sur Montpellier. Pétition des Républicains de la commune de Montpellier au corps législatif. On est en Thermidor en 7, je vais vous demander là encore de traduire. Thermidor en 7, c'est quoi ?
On est donc à la fin de la Révolution, c'est le dernier été de la décennie révolutionnaire, disons.
Isabelle Furst nous le lit.
Législateurs républicains, nous ne vous présenterons pas le hideux tableau du passé, ce temps où l'immoralité eut le prix mérité par la vertu républicaine, où le peuple, bâillonné par des tyrans, concentrait son indignation qu'exprimait assez son morne silence. Nous éviterons de rappeler des époques funestes que vont effacer des jours prospères, non par un ménagement indigne de vous, indigne de nous, mais parce que vous avez partagé l'oppression commune et que tout nous assure que vous en garderez un profond souvenir. Nous vous parlerons de l'avenir. Vous avez brisé l'affreux système des contrepoids, vouez-le pour jamais à l'exécration publique. Proscrivez toutes les infernales inventions des romanciers de l'anarchie. Ne connaissez dans le peuple français que deux classes. Les républicains, dénomination chérie, qu'on réservait officiellement à un servile troupeau de nuques politiques, mais qui n'appartient qu'à ceux qui ont su la mériter. Les républicains qui constituent la République elle-même et les ennemis de la République, factieux, cruels, qui ne doivent nous occuper que pour les punir.
Ce qui est intéressant dans ce texte, Michel Vauvel, c'est de voir que va se figer, malgré ce que vous nous avez raconté, la variété de ce peuple, ses changements tout au long de la Révolution, le fait que ça n'est pas les mêmes en 1789, 1792, 1797, va se figer tout de même une mystique du peuple. Vous nous parliez de Michelet au tout début, qui, d'une certaine façon, va faire référence à un avant Révolution française, là où le peuple n'était pas souverain, et un après, quels que soient les aléas de cet après, au bout du compte, c'est institué, c'est-à-dire que notre peuple, le peuple, est là désormais. Il faut compter avec lui, Michel Vauvel.
Vous évoquiez, après Rosan Vallon, l'insaisissable peuple.
Le peuple
mais,
introuvable.
Hey, voilà, il faut le chercher là où il se trouve, là où il s'est incarné. Il s'est incarné à travers d'autres notions, concepts fondamentaux qui prennent forme. Et j'ai évoqué la nation. Et je pense qu'il serait ici utile de rappeler que au temps où est émis ce cri de l'ancêtre, la nation, c'était aussi la République. Peuple et République vont entamer une symbiose pluriséculaire et féconde et profonde à l'intérieur de l'espace français. Mais, sans contradiction, ce qui me semble aussi, c'est qu'à ce moment-là, on assiste à une autre explosion, qui est cette explosion des peuples. Là, il faut voir ici l'iconographie directoriale, celle des entêtes des généraux, qui nous montre l'appel au peuple, les peuples de l'Europe, les peuples auxquels on apporte qu'ils le veuillent ou non. Mais c'est cette injonction, comme pour reprendre une formule de Jaurès, cette injonction au peuple de hâter le mouvement de l'histoire trop lente. Et alors là, nous voyons un autre avatar de peuple, de la notion de peuple, où la Révolution joue un rôle considérable.
Oui, c'est-à-dire c'est la sortie de la Révolution hors de ses frontières. C'est l'idée que dans cette Révolution niche déjà ce qu'on appellera au milieu du 19e siècle, dans les leçons d'histoire, le printemps des peuples. Voilà. Christine Perrard, sur ce point, sur cette évolution et sur cette glorification du peuple, même par des régimes qui ensuite vont le museler, comme le régime napoléonien, par exemple. On continuera quand même à se référer à ce peuple français.
Oui, et l'invocation, là, c'est bien à la République. Hein. C'est un appel à sauver la République, à un moment où, pratiquement, cette République est, hélas, vouée à disparaître. Donc, il y a chez ces citoyens de Montpellier qui se rencontrent. Comme ils s'étaient rencontrés en l'an 2 dans les sociétés populaires, ils se rencontrent pour adresser une pétition, alors même que les pétitions et délibérations collectives sont interdites à ce peuple jadis souverain, c'est encore un appel donc à défendre la République qu'ils adressent à ceux qu'ils appelaient autrefois les représentants du peuple.
Bernard Péchaud, à propos de votre propre terrain, c'est-à-dire cet Anjou donc, qui s'oppose à la Révolution française et cette contre-révolution qui s'y installe progressivement, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cette fin de révolution, sur ces glorifications du peuple? Est-ce que par exemple ces chefs contre-révolutionnaires qui ont repris la main, nous expliquez-vous dans votre travail, ont repris la main sur ce mouvement populaire anti-révolutionnaire, est-ce que ces chefs révolutionnaires comprennent quelque chose à cette mystique du peuple qui s'est instaurée pendant ces quelques années de Révolution française?
Je ne serais pas si sûr que vous. Par contre, il y a quelque chose que je veux préciser, parce que je ne veux pas passer pour un turiféraire de la réaction.
on a jamais dit ça.
C'est que la notion de peuple vendéen, qui est aujourd'hui utilisée, oui, comme pour la chouannerie, on pourrait dire, il y a peu d'occurrences de peuple chouan, mais souvent on a confondu la chouannerie avec le breton. Le breton est normalement insurgé contre les autorités parisiennes, par nature. Je dois dire vraiment, et que ce soit vraiment très clair, que cette notion de peuple, surtout pour la notion de peuple vendéen, est une construction du 19e siècle.
Oui, Jean-Clément Martin avait travaillé dessus.
Il n'y a pas d'identité vendéenne avant la Révolution, quoi qu'on en dise aujourd'hui dans certains cénacles, quoi qu'on en dise. Voyez. Donc, la notion de peuple vendéen qui serait par nature ou par déterminisme culturel ou géographique ou par quasiment géomorphologique contre-révolutionnaire, ça, c'est vraiment une invention récente.
Périne Carvan.
Est-ce qu'on pourrait dire que avant la Révolution, le peuple était soit le peuple de Dieu, puis ou le peuple du roi, et il y a eu cette parenthèse révolutionnaire où il a été son seul maître pour finalement devenir de nouveau le peuple de l'empereur, puis après voilà le peuple de la République. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a eu ce moment où le peuple n'était finalement son seul maître?
Michel Vauvel, brièvement.
Bonaparte, devenant Napoléon, ne peut se débarrasser de cette macule originelle dans la mesure où il prétend ramener la Révolution à ses débuts. Et il y a une chose qu'il ne conteste pas, c'est la nation, c'est l'unité nationale. Et de cette façon, il n'y a pas, on ne peut pas se débarrasser du peuple, même si on fait des Jacobins.
Une fois qu'il est là, on ne va plus s'en débarrasser.
Les Jacobins sont traqués, ils sont poursuivis. D'ailleurs, ils sont italiens. Et puis, mais le peuple, il est en réserve, et ce sera, si vous voulez, son histoire au 19e siècle.
Et c'est ce qu'on racontera demain. Merci, Michel Vauvel, de nous tendre ainsi la perche pour évoquer cette question du 19e siècle qui sera au cœur de notre dernière émission ici, dans la cour du rectorat à Montpellier. Et vous savez, depuis le début de cette semaine, Jean Birnbaum, bonjour Jean.
Bonjour.
Bonjour, co-anime avec moi les rencontres de Pétrarque tous les soirs, vient nous faire un compte-rendu de ce qui s'est dit la veille dans ces rencontres de Pétrarque pour les auditeurs de France Culture, avant qu'ils puissent l'entendre justement sur l'antenne de France Culture pendant l'été. Alors, on n'a parlé que d'unité, même si on a expliqué que cette unité était bien divisée pendant la Révolution française, et on n'a parlé que de division pendant cette table ronde d'hier sur les nouvelles fractures du peuple, Jean-Bienbaume.
Bah oui, depuis le début, en fait, un peu dans la continuité de ce que vous venez de dire ce matin, depuis le début de ces rencontres, on n'en finit pas de tourner autour de cette figure infigurable du peuple, cette figure introuvable, comme l'a dit Pierre Rosanvallon dès sa leçon inaugurale lundi. Mais enfin, tout de même, dans notre imaginaire politique commun, quand on dit peuple, on pense d'abord à un groupe social dont la force politique et parfois la puissance révolutionnaire est liée au rôle et à l'unité économique. Or, depuis quelques années, c'était le sujet de cette table ronde, on assiste à un déplacement de cette question sociale vers la question raciale, pour reprendre le titre d'un ouvrage signé naguère par les deux frères Fassin, Éric et Didier Fassin, de la question sociale à la question raciale. Les tensions économiques ont tendance à être relativisées au profit de contradictions culturelles, ethniques, voire raciales donc, tant et si bien que dans le discours de certains chercheurs comme de certains militants, eh bien, l'ouvrier syndiqué semble être en passe d'être remplacé, presque poste pour poste, par le fils ou la fille de colonisés ou d'esclaves, bref, par celui ou celle qu'on appelle l'indigène de la République.
Alors, certains ne sont pas du tout d'accord avec cette évolution tout de même, Jean-Bienbaume, mais on l'a entendu hier, justement.
Oui, notamment l'historienne Sophie Vanisch ou l'anthropologue Jean-Loup Ancel, contre ceux qui voudraient réduire l'universel révolutionnaire ou républicain à une sorte d'abstraction éradicatrice, intolérante à la moindre diversité. Eh bien, Sophie Vanisch a affirmé que cet universel est tout sauf éradicateur et que dès 1789, il s'était montré capable d'accueillir les identités particulières, notamment culturelles ou linguistiques. Et regrettant à son tour le brouillage de l'horizon universaliste, Jean-Loup Ancel a dénoncé le reflux de la question sociale, l'ethnicisation de la France, et il a fustigé non seulement la politique de Nicolas Sarkozy, mais aussi, et peut-être d'abord, ceux qu'il a appelés les entrepreneurs d'ethnicité et de mémoire, porte-parole autoproclamée de communautés imaginaires, qui participent donc au recul des revendications sociales, à la fragmentation ethnique du peuple, et ce, pour le plus grand bénéfice des démagogues racistes. Et à cet instant, Emmanuel, vous l'avez remarqué, Jean-Loup Ancel avait en ligne de mire plusieurs collectifs associatifs ou militants, et notamment le CRAN, ou Conseil représentatif des associations noires.
Et ça tombait bien, parce qu'on avait justement le porte-parole du CRAN autour de la table.
Oui, Louis-Georges Thin, c'est son nom, qui était particulièrement bien placé pour évoquer ces questions des nouvelles fractures du peuple et du politique, en tant que chercheur, bien sûr, mais aussi et surtout en tant que militant, à la fois de la cause homosexuelle et de la cause noire. Il a fait valoir qu'à ses yeux, lutter contre les discriminations liées à la couleur de peau, mais aussi au genre, à l'orientation sexuelle ou même au handicap, n'impliquait absolument pas de renoncer au front social ou économique. Il y a là des combats qui, selon lui, loin de s'opposer, s'articulent, se superposent, s'éclairent et se renforcent mutuellement. « Je ne connais pas une seule personne qui ait une seule identité », a martelé Louis-Georges Thin. Conférer un sens à l'universalisme, lui donner corps aussi, c'est lui donner une identité, donc plusieurs. La question sociale a encore toute son actualité, a-t-il conclu, mais il est temps d'admettre que les problèmes ne sont pas seulement économiques.
Merci, merci Jean, et on se retrouve ce soir dans cette cour du rectorat entre 17h30 et 19h30 pour une troisième table ronde, quatrième émission donc de ces rencontres de Pétrarque autour des révolutions populaires récentes du monde arabe. Merci à vous Michel Vauvel de vous être déplacé ici même à Montpellier. Merci à vous Christine Pérard d'être venue également pour évoquer cette question. On peut citer de Christine Pérard Les Jacobins de l'Ouest, publication de la Sorbonne, c'était en 1996. De vous Michel Vauvel, on peut citer beaucoup de choses. Allez, les sans-culottes marseillais, je les ai sous les yeux. Le mouvement sectionnaire du jacobinisme au fédéralisme 1791-1793 aux excellentes presses universitaires de Provence. Et puis, on peut trouver également votre livre, Bernard Péchaud, sur la question de la chouannerie en Anjou.
Oui, tout à fait.
Et c'est où ? C'est chez qui ?
Ça, c'est aux presses universitaires de l'Université Paul-Valéry.
Et puis, on peut citer, puisqu'on l'a cité avec Jean-Bienbaume, Sophie Vanisch, La longue patience du peuple, 1792, Naissance de la République, c'est chez Payot. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouve donc demain pour évoquer, dans le dernier volet de cette émission de la Fabrique de l'Histoire, pour évoquer justement la question du peuple au 19e siècle. Merci à Julien Bourdet, Bernard Legac, Hervé Dubreuil, à Alexandre Jublin qui a préparé les textes avec nous, à Perrine Kerouan qui m'a accompagné toutes ces semaines ici même, et merci à Renaud Lalmar qui réalisait cette émission.